Europe 1.
Jouez à Cyberpunk 2077. Conduisez des bolides, combattez des corporations et améliorez votre corps.
On va s'amuser un peu.
Cyberpunk 2077. Achetez-le dès aujourd'hui sur Xbox, PlayStation, PC et Stadia. PEGI 18.
Ah 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Aujourd'hui, un thème qui devrait plaire à mon fidèle complice dont la pilosité généreuse est l'une des principales caractéristiques. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, c'est vrai que de ce côté-là, Dame Nature m'a bien doté.
Oui, aujourd'hui Mathieu, novembre est enfin fini. Et donc, Movember, ce mois où l'on arbore fièrement sa moustache pour une bonne cause, on a donc décidé de rendre hommage aux moustachus de l'histoire, ceux qui l'ont gardé toute leur vie.
Garde ta moustache.
C'est génial, j'adore ce thème. Staline, Hitler, Bachar el-Assad. Oh, une belle après-midi.
Non, Mathieu.
D'accord.
Des moustachus de qualité.
Ah.
Je vous parlerai du plus célèbre des Marx Brothers, Groucho Marx, puis du peintre surréaliste à la vie qu'il était tout autant, Salvador Dali. On sera d'ailleurs avec Amanda Lear, qu'il a bien connu, pour dire les choses pudiquement. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait et la moustache de celui qui était un acteur épatant et un homme admirable.
Oui Stéphane, j'ai du mal à croire qu'il y a déjà 3 ans qu'il nous a quittés. J'évoquerai le destin du dernier gentleman français à l'inoubliable moustache, Jean Rochefort.
Ah les gentlemen, une espèce effectivement en voie de disparition, comme pourra nous le confirmer Clémentine Portier-Kaltenbach. Elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde.
Oui, bonjour messieurs, et je vais vous parler en effet d'un vrai gentleman. C'est un personnage très touchant, qui n'avait pas de moustache, mais aurait rêvé d'en avoir une. Il s'agit de Mathilde Morny, célébrité du Paris de la Belle Époque. Et depuis toujours, Mathilde aurait voulu être un garçon, avoir de la moustache, et à l'adolescence, elle se rend compte que décidément, elle se sent homme et qu'elle aime les femmes, mais pas facile à assumer en cette fin de 19e, et encore moins quand on est la nièce de l'empereur Napoléon III et l'arrière-petite-fille de Joséphine de Beauharnais.
Ouais, c'est triste. Et puis avec nous, il y a Olivier Pouls aussi.
Oui, et un plat de moustachus, hein, parce que là, écoutez, le tablier de sapeur, un des emblèmes de la gastronomie lyonnaise, le gras double, cher ami.
Alors voilà, je vous le confesse, je ne savais pas ce qu'était le tablier de sapeur. Je connais l'expression tablier de sapeur, mais je ne pensais pas que c'était un plat.
C'est aussi l'objet, le tablier que portent les sapeurs dans la Légion étrangère.
Et chantons d'ailleurs. Il y a une petite...
Nous verrons ça tout à l'heure. Aux côtés de notre débonnaire marmiton potelé, Stéphane, je reconnais l'allure élégante quasi british de celui qui porterait fort bien la moustache. En tout cas, il a l'espace interbuconasal suffisant pour la faire pousser. C'est un chroniqueur que Clémentine adore.
Moi, je suis une fan inconditionnelle des chroniques tout comme tout le monde.
Oui, la prochaine étape, ce sera de retenir son nom, mais elle est fan, et c'est déjà le principal. Voici Clémentine, David Castello-Lopez.
Oui, ouais. tout à fait. J'ai une petite méthode pour l'espace interbuccal, c'est-à-dire que si on rase un peu la moustache en haut, ça fait semblant qu'il est un petit peu plus petit.
Vous avez pensé à ça dans votre miroir.
Non, c'est un barbier qui m'a dit, les barbiers voient que j'ai
David, chaque après-midi, vous nous racontez les origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession. Parfois, pour vous, c'est les trois à la fois. Aujourd'hui, vous nous parlez de quoi ? J'ai cru mal comprendre.
Non, je pense que vous avez bien compris. Il y a un lien ténu avec le sujet, puisqu'on parle de moustache. Et moi, je vais essayer de déterminer depuis quand est-ce que les filles s'épilent en bas ?
Les jambes ?
Non, un petit peu plus.
Un petit peu plus haut.
Un petit peu plus haut.
Okay, intermédiaire.
On a compris.
Une sacrée enquête.
Je suis allé aussi proche possible d'une date précise.
Avec
des statistiques.
Mais tant qu'il a eu le choix dans la date. Enfin, Stéphane, une fois de plus, vous remettrez votre titre en jeu en vous frottant aux questions souvent piégeuses de notre célèbre quiz Born to be Alive. Ce sera vers 5h-10. Mais tout de suite, faisons connaissance avec notre premier moustachu célèbre de l'histoire, un certain Groucho Marx.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Chaplin disait de lui qu'il était le plus grand comédien au monde. Groucho Marx était en tout cas à cette époque-là celui qui avait la moustache la plus imposante du cinéma. Nous sommes dans les années 20, après une tournée de plusieurs semaines en Angleterre, les Marx Brothers sont de retour à New York. Groucho Marx observe le formulaire de douane à remplir avant d'entrer sur le territoire américain. Sous profession, le comédien écrit contrebandier.
Ça commence
bien.
Et
pour la rubrique liste des articles achetés, il répond « Vous aimeriez bien le savoir, hein ?» Forcément, Groucho Marx est arrêté. Mécontent d'être retenu par la police des frontières, il se tourne vers sa femme et lui demande où elle a caché l'opium. Que cette scène ait eu lieu ou pas, elle en dit long sur l'humour du personnage. Né le 2 octobre 1890, Julius Henry Marx, c'est son vrai nom, mais on le surnomme Groucho, est le troisième des 5 fils que compte la famille Marx. Inspiré par son oncle, Al Sheen, une star du vaudeville, il quitte l'école très jeune et à 14 ans, tourne dans les music-halls des petites villes américaines. Si l'oncle Al Sheen connaît une certaine célébrité, il ne faut pas croire pour autant que la famille Marx roule sur l'or. Bien au contraire. En 1974, le respectable magazine Playboy demande à Groucho Marx lors d'une interview « Étiez-vous vraiment aussi pauvre que la légende le dit ?» Et Groucho répond « Si pauvre que quand quelqu'un frappait à la porte, on se cachait sous les lits. » Sans doute la famille craignait-elle les huissiers. Alors qu'il est adolescent, Groucho Marx chante pour 4 dollars par semaine dans une petite compagnie qui prévoit une série de spectacles dans le Michigan et le Colorado. Mais pendant la tournée, le manager disparaît avec tous les gains de Groucho Marx qui est forcé de vendre ses costumes de scène pour payer son billet de retour vers New York. S'ensuivent plusieurs années de galère. Tous les frères Marx, Groucho donc, mais aussi Harpo, Chico, Gummo et Zeppo se lancent dans le monde du spectacle sous la houlette de leur mère Minnie. Mais aucun ne rencontre le succès escompté. Minnie Marx a alors une idée. Et si ces garçons montaient une troupe tous ensemble? Désormais, c'est elle qui négocie les contrats et organise les tournées. Un jour, pour obtenir des tarifs réduits dans un train, elle fait passer ses fils pour des mineurs de 13 ans. Mais, proteste le contrôleur, il y en a un qui fume le cigare et un autre se rase dans son wagon. Minnie soupire, ils grandissent si vite, vous savez. On comprend mieux d'où vient l'humour absurde de Groucho Marx. Avec ses frères, il se lance dans une tournée aux États-Unis jouant du vaudeville, alors très en vogue à l'époque. Il s'agit de spectacles de music-hall mettant en scène des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des mimes et des dizaines de gags. Les frères Marx jouent dans les villages les plus reculés. Lorsque le public ne nous aimait pas, nous n'avions aucun mal à nous en apercevoir. Nous recevions immédiatement une grêle de bouts de cigares, de noyaux de pêche, de bâtonnets de friandises, des pierres, des crachats, des cannes, n'importe quoi. Leur situation n'est pas rose. D'autant que les frères Marx, à force de travailler, perdent leur voix. Il est urgent de se renouveler. Les Marx Brothers développent alors un humour basé sur l'absurde et le ridicule. À chaque spectacle, le texte est improvisé et le public adhère. À partir du milieu même des années 1910, il joue à New York dans de prestigieux théâtres comme le Palace. Et 10 ans plus tard, direction Londres pour une tournée. Mais la soirée d'ouverture est catastrophique. La salle siffle et leur jette même des pénis. Groucho fait une tentative d'humour. « Nous avons fait toute la route d'Amérique pour venir vous divertir. Vous pourriez au moins nous lancer des shillings. » Les frères Marx se font tellement huer qu'ils doivent sortir du théâtre. Heureusement, la représentation suivante est un triomphe. Groucho Marx invente alors un personnage moustachu et aux sourcils imposants, constamment en train de mâchouiller un cigare. Au départ, il colle une moustache postiche sur son visage avec de la glu. L'acteur confiera qu'elle était facile à poser, mais c'était une torture pour la retirer. Un jour, alors qu'il a dû arracher sa moustache plusieurs fois de suite dans la journée, il préfère la dessiner avec la peinture et ça fonctionne. Le public ne voit pas la différence. Dans les années 30, passé désormais sur grand écran, la Paramount demande à Groucho Marx de remettre sa fameuse fausse moustache faite de charbon brûlé. Quand il demande pourquoi, on lui répond « Le public n'y croira pas. Le public ne nous croit pas, quoi qu'il en soit. Tout ce qu'ils font, c'est rire de nous. Et après tout, c'est pour ça que je suis payé, non ?» rétorque Groucho Marx qui obtient gain de cause et garde sa moustache de peinture. Cette fausse moustache est la marque de fabrique de l'acteur. En 1982, le jeune critique de cinéma Emmanuel Carrère propose une interview imaginaire de Groucho Marx dans Télérama. Celle-ci tourne, bien sûr, autour de sa moustache. Je vous en lis un extrait. Mathieu, vous vous faites Groucho, je suis sûr que vous en avez toujours rêvé.
Bien sûr.
Et moi, je fais Emmanuel Carrère.
Alors,
vous promenez-vous partout avec cette moustache noire?
Bah, vous n'espérez pas qu'une moustache noire puisse se promener toute seule. Même une moustache noire finit par se sentir seule le soir, vous ne croyez pas?
Chico Marx prend ensuite la parole. Cela me fait penser que quand la barbe de mon grand-père arrivera, j'aimerais la présenter à votre moustache.
J'en toucherai deux mots à ma moustache. Dites-moi, la barbe de votre grand-père a-t-elle de la fortune?
C'est absurde, évidemment, comme l'était sa carrière. Mais quoi qu'on en pense, Groucho Marx est devenu une célébrité mondiale. Et avec sa renommée, le comique va réaliser, vous allez voir, un rêve étonnant.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Garde ta moustache, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Stéphane, vous nous parlez d'un des plus célèbres moustachus de l'histoire, Groucho Marx, qui est devenu aussi l'un des plus grands comiques de théâtre et de cinéma, et dont la célébrité va lui permettre de réaliser un de ses plus grands rêves.
Oui, il faut savoir que le comique a deux passions, l'écriture et la lecture. Et son rêve de devenir écrivain devient réalité. Groucho Marx côtoie de nombreux auteurs et en 1930, il publie son premier livre, Beds, en français Plumard de cheval. Il publie au fil de sa vie d'autres essais humoristiques comme Les mémoires d'un amant lamentable qui commence par ces mots « J'ai écrit ce livre durant les longues heures où ma femme s'habillait pour sortir. Si elle avait été adepte du naturisme, ce livre n'existerait pas. » Dans cette fausse autobiographie, les femmes en voient toutes les couleurs. Car il faut savoir que Groucho Marx a la solide réputation d'être un mufle comme on en voit peu. À une dame peu attirante qui raconte aimer la nature, Groucho Marx répond « Vous avez du courage après tout ce qu'elle vous a fait. » Ou encore « Entre une femme et un cigare, je choisirai toujours le cigare. » Bon, c'était son humour à lui. En parallèle, les frères Marx font carrière à Hollywood dès 1931. Ils tournent 13 films ensemble et se séparent en 1950 après leur dernier film « La pêche au trésor ». Groucho Marx se lance dans une carrière d'animateur avec l'émission You Bet Your Life qui connaît un grand succès aux États-Unis. Pendant 30 minutes, Groucho fait face à deux candidats et leur pose diverses questions. Si au cours de l'émission, l'un des invités prononce le mot mystère, the secret word, eh bien préalablement annoncé au public, il gagne $100. On imagine que l'intérêt de ce show tenait surtout aux répliques drôlissimes de Groucho.
Here I am again with $2,000 for one of our couples, and if any of them say the secret word, the duck will come down and pay him $100. And the word tonight is face, F-A-C-E. Beat it.
On lui doit quelques citations à faire pâlir de jalousie n'importe quel humoriste. Groucho Marx trouve par exemple que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce à côté et je lis. Ou encore, la principale cause de divorce, c'est le mariage. En matière de divorce, Groucho Marx s'y connaît puisqu'il se marie et divorce 3 fois. Lorsqu'il se sépare de sa 3e épouse, Eden Hartford, en 1969, il accepte de lui verser une pension alimentaire de plusieurs centaines de milliers de dollars. Il continue de la fréquenter après leur séparation. « J'aime bien être près de mon argent », dit-il. En 1977, Groucho Marx meurt d'une pneumonie à l'âge de 86 ans. Selon ses dernières volontés, il est incinéré et ses cendres sont déposées au Eden Memorial Park Cemetery, le cimetière juif de Los Angeles. Mais quelques jours après la cérémonie, son fils Arthur découvre une lettre de son père. « Je ne veux pas être incinéré. Je veux que mon corps repose près de celui de Marilyn Monroe au cimetière Westwood. » Comme une dernière blague avant de s'en aller.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer de parler de l'inénarrable Groucho Marx, le moustachu le plus célèbre peut-être du cinéma, nous sommes avec une auteure qui connaît le sujet par cœur, Chantal Knecht. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Chantal Knecht, vous êtes productrice et auteure de documentaires de fiction d'un livre qui vient tout juste de paraître, Les Marx Brothers par eux-mêmes, chez Robert Laffont. Vous êtes passionnée depuis toujours, on peut le dire, par les Marx Brothers. Vous avez rencontré les enfants de ces héros à New York lorsque vous prépariez une nuit Marx Brothers pour Arte. Ces frères Marx, qu'est-ce qu'ils ont de fascinant pour vous?
Tout d'abord, je précise que c'est lorsque j'ai vu leur cinquième film, La Soupe au Canard au cinéma, que j'ai su immédiatement que ces grands comiques-là feraient partie de ma vie pour toujours. Ça a été un choc d'abord cinématographique. Je sentais bien qu'il y avait un héritage du cinéma burlesque muet, pas si lointain que ça. Mais en réalité, il s'agissait de, du cinéma parlant, une première. Et ces trois comédiens, j'exclus exprès Zeppo parce que il n'a jamais créé son, parce qu'il n'a
c'est
jamais.
C'est le moins talentueux.
Ça, je ne sais pas, parce que Groucho disait de son frère que c'était le plus drôle et le plus magnifique dans la vie.
Ah, dans la vie.
Oui, dans
ah,
la
oui.
vie.
Sauf, pareil, ça.
Sauf que vous avez raison. Au cinéma, il n'a jamais créé son personnage. Jamais. Oui. D'ailleurs, en 1933, il quitte le cinéma et devient agent de leur frère. Et en plus, il n'a jamais été intéressé vraiment par le spectacle. Donc, je l'exclus volontairement, un peu à regret. Je l'exclus
parce
volontairement.
Qu'il était si drôle dans la vie.
Il était, paraît-il, très très drôle, même plus que Groucho. Alors ça,
c'est dire.
C'est dire, exactement.
Vous avez confié la préface de votre livre à l'écrivain et grammairien Jean-Loup Chifflet. Pour lui, les Marx Brothers, c'est une famille pour le moins originale qui, au début du XXe siècle, a semé le désordre et la folie dans une Amérique bien pensante et très attachée aux valeurs familiales et religieuses. C'est ça qui fait leur originalité, leur succès aussi. Ils allaient contre la bien-pensance de l'époque.
Oui, oui, c'est vrai. Bon, Jean-Loup Chifflet est aussi un homme d'humour, hein, aussi bien dans ses écrits que, oui. que dans sa vie. Bon, il a quand même un handicap majeur, il n'a pas de moustache.
Donc, ça, c'est éliminé pour notre thème du jour.
Non, mais c'est vrai, les Marx Brothers ont vraiment semé le désordre et la folie. C'est ce que les surréalistes ont qualifié chez eux. D'abord, sur une scène au théâtre, ils ont affronté de manière complètement extravagante les grandes compagnies de théâtre. Après, ils se sont heurtés à tous les grands codes d'Hollywood. Et là, franchement, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils étaient complètement fous sur des tableaux. Les témoignages des réalisateurs, en particulier du grand Léo McCarré, en témoignent.
Mais pour ceux qui connaissent mal l'univers des Marx Brothers, comment vous définiriez leur humour? C'était de l'absurde. C'est quoi leur marque de fabrique?
Alors peut-être je donnerai des définitions en deux temps. Je définirai d'abord leur humour au cinéma et au théâtre auparavant, à travers peut-être un genre qui n'existe plus, hélas maintenant, qui est le burlesque. Mais quand ils ont terminé leur carrière cinématographique, quand ils ont poursuivi leur carrière, c'est aussi ça qui est très intéressant chez eux, à la télévision, à la radio, l'humour était au centre de leur vie. Et là, peut-être, on pourrait ajouter d'autres caractéristiques qui étaient l'improvisation, la dérision, l'autodérision permanente et un sens unique de la répartie. Donc Groucho a été au centre de tout ça.
Et puis on lui doit des aphorismes extrêmement
oui.
drôles.
Et moi, ce qui me plaît beaucoup chez eux, c'est d'utiliser, en tout cas Groucho, deux oxymores que j'adore. On pourrait dire qu'ils étaient d'une insolence joyeuse et d'une impertinence enjouée.
Groucho Marx est resté le plus célèbre, on l'a dit, des Marx Brothers. Pourquoi lui plutôt que les autres? Est-ce que lui-même était un personnage solaire comme ça, rayonnant au quotidien pour tout le monde, ou c'était quelqu'un qui réservait son humour à la scène, au plateau de cinéma?
Non, Groucho était à la fois un personnage et une personne qui ne réservait rien du tout.
Il était
mais
tout
alors,
le temps, sur
rien
le même
du
mode.
Tout. Le mot réserve ne peut pas lui convenir. Non, Groucho était tout le temps drôle. Moi, je me souviens avoir vu au musée de la télévision à New York presque toutes les émissions que Groucho et ses frères ont faites à la télévision. Mais il était incroyable. C'est-à-dire qu'il coupait la parole aux animateurs, aux animatrices. Il était vraiment une star. Il n'arrêtait jamais.
Et essentiellement dans l'improvisation, d'après ce que vous nous disiez.
L'improvisation, les réparties, à tout le temps. Groucho était le roi de l'improvisation et de la digression.
Ce qu'il faisait dans son émission You Bet Your Life, par exemple, quand il a poursuivi après le cinéma sa carrière à la télévision, ça a été un succès phénoménal. Hein.
Oh oui, ça c'était Groucho après le 13e film, il ne souhaitait pas, il était quand même très très cabot, il ne souhaitait pas ne rien faire, c'était pas possible. Il avait déjà fait la radio avant avec Chico dans les années 40, et là quand tu lui as proposé cette émission, pour lui c'était l'idéal parce que il avait une carte blanche qu'il avait âprement négociée, il avait une carte blanche totale. Alors sans ses frères, sans ses accessoires, c'est là où il a montré aussi, je dis bien aussi, tout son talent, c'est-à-dire qu'il avait affaire à deux personnes, c'était un quiz, la plupart du temps des gens dits ordinaires, quoique parfois il invitait ses copains du showbiz, il y a un sketch avec Jack Benny qui est absolument hilarant, et là il est très très à l'aise parce que son sens de la répartie, de l'imagination et de la digression était incroyable. Et là ça a été un succès pendant 10 ans, de 1950 à 1960, absolument phénoménal dans tout le pays, et probablement, je pense qu'il a ce succès-là a contribué à maintenir la réputation et la célébration des Marx Brothers.
Est-ce que notre émission est axée sur la moustache? Est-ce que Groucho Marx aurait pu réussir sans sa moustache?
Oh, ça c'est une question un petit peu difficile, mais je vais prendre des risques quand même.
Prenez des risques, on prend tous les risques.
Tous les risques à Europe 1, oui. Non, au départ, dans les années théâtre, c'est vrai que c'est un accessoire comme beaucoup d'autres comédiens.
Donc, oui, il y en a d'autres, des acteurs à moustache.
Oui, il y en a d'autres, il y a eu Chaplin, il y a eu plein d'autres. Donc ça, c'était un accessoire. Et puis, le personnage de Groucho qu'il s'est créé assez vite, et en particulier avec les surnoms de ses frères en 1914. Donc, le personnage de Groucho était tout en noir. Il y avait sa moustache qui était très imposante, c'était un grand rectangle.
Oui.
Ses sourcils charbonneux, sa redingote qui était noire. Et en travaillant un petit peu sur les archives, j'ai retrouvé une ou deux interviews de lui où il disait « Ma moustache a longtemps été un sentiment de sécurité pour moi. »
Donc, comme beaucoup de stars à moustache.
Comme beaucoup. Oui, alors peut-être qu'il faut faire intervenir à ce stade un psy, je ne sais pas.
Chantal Clèche, à propos de psy, vous racontez dans votre livre « Les Marx Brothers » par eux-mêmes que Groucho était le plus obsédé des frères. Mais obsédé dans tous les sens du terme. Obsédé textuel et obsédé sexuel. Il a mêlé ces deux passions dans ses livres. Il s'amusait de tout ça ou il était vraiment un misogyne dans la réalité?
Non, je supporte pas de dire du mal de Groucho, mais je peux reconnaître.
Ah, vous s'en barrez.
Non, mais en tant que femme, quand même.
Mais je reconnais qu'il était misogyne, mais ses frères aussi. C'était peut-être une éducation, c'était peut-être l'époque. Cela dit, je suis pas sûre que ce soit le plus obsédé. À mon avis, c'était Chico et Zeppo. Ça a été moins dit parce qu'ils ont beaucoup moins parlé publiquement, mais bon, j'ai eu quelques confidences là-dessus, c'était ça. Cela dit, c'est vrai, Groucho a toujours beaucoup parlé de sexe, mais c'est aussi celui qui s'est le plus exprimé. Il a écrit là-dessus, d'ailleurs j'en cite plusieurs passages dans mon livre, à la rubrique sexe, c'est très très drôle.
Ouais.
Cela dit, que ce soit lui, Chico ou Zeppo, ils avaient beau prendre beaucoup de plaisir à tarauder les femmes, ça se passait quand même sans violence tout ça, il faut quand même bien le rappeler.
Vous pensez, comme Chaplin, que Groucho Marx est le plus grand comédien au monde?
Comme on dit en anglais, definitely.
Bon, définitivement. Merci Chantal Knecht pour tout savoir.
Alors
vraiment tout savoir sur les Marx Brothers. Je vous invite à lire son livre qui vient tout juste de paraître, Les Marx Brothers par eux-mêmes, dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Surtout, merci à vous.
Surtout la rubrique sexe. N'oubliez pas cette partie-là du livre. Moi, c'est celle qui m'a le plus intéressé.
C'est ça qui vous interpelle.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
On vous raconte l'histoire dans Historiquement vôtre tous les après-midi. L'histoire sans la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Cette fois, je vais vous parler d'une femme que vous connaissez, Stéphane. C'est une femme très touchante, Mathilde de Morny. Et un jour, son beau-père, le duc de Sesto, qu'il a élevé comme un fils
le
d'ailleurs.
Le duc de Sesto?
De Sesto, oui. Je vais vous expliquer qui c'est. Alors, il lui dit, personne ne voit le garçon qui est en vous. Oui, c'est son beau-père, parce que Mathilde de Morny, elle était la fille de Morny, le demi-frère de Napoléon III, et d'une princesse trop Betskoy, apparenté au tsar de Russie par une danseuse de cordes et bon, enfin, autre histoire. Bon, mais donc c'était une famille dans laquelle on était quasiment enfant naturel de mère en fils, puis dire.
Et d'ailleurs, je crois que la mère disait, mon mari m'a tellement trompée que je ne suis même plus sûre si mes enfants sont
je suis la mère de mes enfants. Comment faire donc quand on se sent homme? Comment assumer un tel choix quand on vient d'une famille aristocratique et qu'on est apparenté à la famille impériale, c'est compliqué. Alors, on va se fixer à Paris. Ça, c'est une première chose, parce qu'à l'époque, Paris est la capitale européenne de l'homosexualité, et sachant que ces pratiques sont sévèrement punies pratiquement dans tous les pays d'Europe. Le mot n'existe d'ailleurs même pas encore. Il n'apparaît que, je crois, c'est 1866 ou 1867. Alors, à Paris, Mathilde fréquente la Société d'amour, un cercle lesbien aristocratique franco-espagnol dont elle va devenir la figure de proue. Et ça va pas l'empêcher d'ailleurs de faire un mariage comme il faut. C'est-à-dire qu'elle est constamment tiraillée par les impératifs liés à ses origines sociales et à son sang bleu et par sa vraie nature profonde. Donc, mariage comme il faut, elle épouse en 1881 à 18 ans le marquis de Belleboeuf. Il sait parfaitement à quoi s'en tenir avec Mathilde. Elle a d'ailleurs ayant déjà eu des relations homosexuelles, donc il la laisse totalement libre de vivre ses liaisons. Et un chroniqueur commente au moment de ce mariage, cette Amazone a annoncé son mariage avec Belleboeuf, réussira-t-il à la détourner de ses penchants féminins? Eh bien, loin s'en faut, car Mathilde, désormais, ne s'habille plus qu'en complet veston. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est absolument interdit, c'est passible d'une amende. Une femme ne peut pas s'habiller en homme. Ah non. Toutes celles qui l'ont faite, des Georges Sand, des Rosa Bonheur, etc. Rosa Bonheur, elle avait une dispense de la préfecture.
Elle avait une dispense, exactement. D'ailleurs, ça a été levé que dans les années 1970 ou 1980.
Oui, je crois que cette loi, on s'amusait beaucoup du fait qu'elle ait été abolie très tardivement. Alors donc, complet veston, elle se fait couper les cheveux très courts, elle fume le cigare, et comme elle assume son désir profond d'être un homme, elle choisit de subir une hystérectomie et l'ablation des seins. Alors là, vraiment, c'est assez bluffant parce que l'état de la médecine fin 19e, elle est passée sous le bistouri pour une opération aussi grave, il fallait vraiment que ça réponde à un besoin très profond chez elle. Alors, dorénavant, elle ne sera plus jamais Mathilde, mais Missy, Max, Oncle Max ou encore Monsieur le Marquis. Une androgyne qui choque le bourgeois et le fascine et en même temps dont on envie la fortune. Elle devient l'étoile de tous ces cénacles saphiques de la capitale. Elle donne de somptueuses réceptions. Quand elle fête son anniversaire à Montmartre, alors on baptise les lieux le Mont Lesbos. C'est une excentrique absolument munificente, Max, Mathilde, Missy. Chez elle, elle fait du trapèze nu dans sa chambre. Elle veut montrer aux femmes qu'il faut prendre soin de son corps. Et comme c'est une personnalité en vue, le café est très huppé, la Scala va créer un cocktail à son nom qu'on appelle la Marquise. C'est vraiment une personnalité à la mode et sa fortune immense lui permet d'entretenir quelques femmes. Elle va avoir notamment une liaison avec la magnifique, sublimissime Liane de Pougy. Évidemment, son grand amour et sa grande histoire, c'est avec Colette, la romancière Colette. Parce que Colette est fascinée par tout ce qui est interdit aux femmes. Or, Missy, elle s'interdit rien du tout. À un moment, elle est à la fois dans la transgression sociale, elle va avoir une liaison avec une ouvrière de chez Renault. Ça, je sais pas ce qu'on aurait pensé ses parents, mais enfin bon, transgression morale. On dit qu'elle est la seule femme de Paris à pouvoir entrer comme elle veut dans toutes les maisons closes. Et puis, transgression sexuelle naturellement. Mais avec Colette, c'est une vraie histoire d'amour. Elles forment un vrai couple toutes les deux. Pour Colette, Missy, c'est à la fois l'homme, c'était Willy, c'est la figure de mère, et puis c'est aussi le soutien financier de Colette. Et alors, il y a un épisode extrêmement connu de l'histoire de ce couple infernal. C'est le 3 janvier 1907. Elles présentent ensemble un spectacle au Moulin Rouge dans lequel Missy joue le rôle d'un égyptologue qui réveille une momie par un baiser. Et elle participe sous le pseudonyme de Issim, Missy. Et ce baiser entre deux femmes va créer un scandale ahurissant. Tout ça a été très orchestré. Alors depuis la femme, on leur envoie on leur envoie des cannes, des boîtes de bonbons, des tabourets, des cigarettes allumées. Ça hurle dans la salle. La soirée dégénère en bagarre générale. Le préfet de police est obligé de suspendre les représentations. Malheureusement, au passage, ce scandale au Moulin Rouge va révéler le vrai nom de Max Issim. C'est Mathilde de Morny. Elle est qualifiée dans la pièce de personnage lubrique, indécent. Un journal qui titre « Déchéance de la fille d'un duc ». Et du coup, sa famille ne veut plus entendre parler d'elle et pour autant qu'elle puisse le faire, lui coupe les vivres. Alors, le 21 juin 1910, Missy achète avec Colette, vous savez, la fameuse maison de Colette en Bretagne, à Rosven. C'est Missy qui paie les meubles et quand elles se sépareront, très généreusement, grand seigneur, Missy, Max, laissera tout à Colette. Dans son œuvre, Colette cite Max, notamment dans un livre intitulé « Le pur et l'impur ». Et dans ce livre, Max est la chevalière qui nous dit Colette en sombre à juste masculin, s'encanailler comme un prince. Hélas, le prince, avec le temps, vieillit seul, vieillit sans le sou, prend une dégaine de vieux garçon. Elle tente en mai 44 de mettre fin à ses jours en se faisant harakiri, parce que Missy, Max ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Mais c'est un échec. Mais quelques mois plus tard, le 29 juin 1944, elle se suicide au gaz. Missy avec 86 ans, et c'est Sacha Guitry, ami fidèle, qui avait toujours réglé ses ardoises depuis que Missy n'avait plus un rond. Et bien, c'est Sacha Guitry qui prend en charge ses funérailles, les funérailles de cette figure scandaleusement libre de l'avant-garde transgenre que Sacha Guitry appelait affectueusement mon vieux Max. Personnage fascinant vraiment est, fascinant, ah oui. Très
c'est
touchant.
La première trans de l'histoire, enfin, je sais pas si on peut dire ça, transgenre de l'histoire. Fond,
Oui, et qu'il a assumé de façon aussi aussi flamboyante en fait.
Et puis on retient cette belle idée pour égayer un week-end, faire du trapèze nu dans sa chambre.
Ah, c'est pas mal ça. C'est quand même surtout faut avoir quand même un assez haut plafond.
Oui, mais ça il faut pas vivre au dernier étage en soupente.
Je pourrais pas faire du trapèze dans ma chambre.
Clémentine, vous restez bien évidemment avec nous.
Merci beaucoup, Clémentine, c'est super. On va s'affronter maintenant.
Ah, je crois que là effectivement le temps de confisquer son téléphone à Stéphane afin qu'il ne cherche pas les réponses sur le net sous la table, et on pourra jouer dans le respect des règles à Burn to be Alive, notre fameux quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'heure est venue, chers auditeurs, de vérifier vos connaissances historiques en les confrontant à celles, souvent décevantes, il faut le dire, de Stéphane Bern. L'heure, donc, pour Stéphane de convoquer ses neurones à un grand rassemblement.
Où êtes-vous?
Avec ou sans neurones, tant pis. Jouons à Burn to be Alive. On n'a pas le temps d'attendre tous vos neurones, Stéphane. On démarre comme ça. Question numéro 1. Partons pour la Hollande du XVIIe siècle. Fascinante période de l'art baroque. Rendons hommage à l'un de ses plus illustres représentants. 400 peintures, 300 dessins. L'inventeur du clair-obscur. J'évoque évidemment Rembrandt. Pour avoir le droit à un point, Stéphane, c'est pas très très compliqué. Je veux son prénom.
Rembrandt.
Attendez. Vous connaissez Rembrandt quand même?
Oui, je connais Rembrandt, mais son vrai nom...
Je vous ai donné son prénom. Le prénom
c'est
de
son
Rembrandt.
Prénom, c'est Rembrandt, je crois.
C'est votre réponse?
Mon intuition, c'est que je crois qu'on ne connaît Rembrandt que sous son prénom. C'est pas son nom Rembrandt, c'est son prénom.
Vous avez gagné.
Ce fut laborieux, mais ce fut la bonne réponse. Effectivement, Rembrandt est son prénom et son nom. Alors, vous le connaissez?
Aucune idée. Hein.
C'est imprononçable.
Van quelque chose.
Voilà.
Ah, c'est Van quelque chose. Vous prenez pas de risque, on est en Hollande. Mon champion. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Castelbach. Il mesure 381 mètres. Arrêtez de me regarder avec gourmandise, Clémentine. Je parle de l'Empire State Building, inauguré en 1931. Voici deux affirmations. Seule une de ces affirmations est vraie. Ça vous parle. L'Empire State Building n'a pas de 13e étage. L'Empire State Building a son propre code postal.
Je dirais qu'il n'a pas de 13e étage. Ça me parle assez bien, ça.
Ça vous parle?
Oui.
Vous avez... perdu.
Oui, ça lui parle, mais elle ne parle pas anglais. Vous avez perdu. 10-118, c'est le code postal de ce bâtiment. 5% seulement des plus hauts immeubles de New York ont un 13e étage. Et c'est le cas de l'Empire State Building, figurez-vous.
Vous m'en direz tant.
Et pour une fois, je tiens à le souligner, je suis parfaitement honnête avec nos auditeurs, je connaissais la réponse à cette question parce que quand je suis allé à l'Empire State Building, eh bien j'ai vu qu'il y avait un 13e étage et ça m'a surpris parce que je me suis dit que souvent ils sont superstitieux aux États-Unis, qu'il n'y a pas de 13e étage. Je l'avais donc retenu. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. En 1934, on reste aux États-Unis, le Trésor américain a imprimé des billets de banque valant 10 000 dollars l'unité. 10 000 dollars le billet, vrai ou faux?
En quelle année?
En 1934.
Il y avait la crise...
C'était après la crise de 1929.
Attendez, parce qu'en Allemagne, par exemple, il y avait...
Qu'est-ce que vous foutiez en Allemagne en 1934?
Mais parce
Stéphane,
que si, avec parce que l'inflation en Allemagne fait qu'on éditait des gros billets qu'on transportait dans des brouettes. Mais là, on est en 34 aux États-Unis. La crise est quand même passée. Il y a eu le New Deal entre temps. Vous rendez compte si vous perdez votre billet?
C'est ballot.
Mon intuition. Alors là, pour le coup, c'est vraiment débile,
votre
peut-être.
Intuition qui vous a toujours guidé astucieusement.
C'est un peu comme en Allemagne. Si vous voulez, on est au lendemain de la crise de 29. Et oui, il y a une inflation galopante et on a peut-être créé en 34 des billets de 10 000 dollars. Voilà.
Vous avez perdu.
Perdu, Stéphane. On n'a jamais, le Trésor américain n'a jamais imprimé des billets de banque de 10 000 dollars. Et non, ils ont fait mieux. Ils ont imprimé des billets valant 100 000 dollars. Mais
Ils n'ont jamais mis ces billets à la disposition du grand public. Imaginez un billet de 100 000 dollars. Là, si vous le perdez, pour le coup, c'est vraiment la catastrophe. Question numéro 4, Clémentine. Un jour, précis, au 19e siècle, Joséphine de Beauharnais, accompagnant Napoléon sur les routes menant à la guerre d'Espagne, a fait une courte pause pipi dans les vignes. De ces vignes est né un vin, un Bordeaux qui existe toujours et dont le nom
le Pisse-Dru
fait directement référence à ce moment de l'histoire. Oui. Vrai ou faux, Stéphane, vous avez l'obligeance de vous taire.
J'imagine oui, puisque le...
Puisque Stéphane dit oui.
Non, mais je connais le Pisse-Dru, je pense que c'est ça, ce vin.
Vous pensez que Joséphine de Beauharnais pissait dru?
Elle faisait tout de façon très intense. Si ça se trouve, le nom du vin n'est pas lié à Joséphine, mais il y a en effet un vin qui, à ma connaissance, s'appelle le Pisse-Dru, donc allons-y, disons oui.
Écoutons la réponse.
Vous avez...
Vous avez gagné, Clémentine. Effectivement, ce moment historique a donné lieu à un vin. Lorsque Joséphine de Beauharnais a fait pipi dans les vignes près de Bordeaux, un vin est né. Mais ce n'est pas le Pisse-Dru. C'est le vin, la pissotière de l'impératrice.
Ah,
le pipi impérial
a été recueilli quand même.
A eu lieu en 1809. Et il a eu lieu dans la parcelle de Congaillard, pas loin de Saint-Émilion. 5 euros la bouteille. Ça fait pas cher.
Donc j'ai trouvé la bonne réponse, mais par un biais détourné et fallacieux.
Mais ça arrive parfois, ça arrive, et vous méritez néanmoins votre point.
Merci beaucoup.
Ah, précision en régie, le Pisse-Dru est un vin du Beaujolais.
Ah, bon, alors j'étais pas du tout dans le bon
coin,
d'accord.
Elle a pissé aussi dans le Beaujolais.
Nous enquêterons pour savoir. Elle a pissé partout. C'était une pisseuse, Joséphine de Beauharnais. Nous sommes dans un cas d'égalité. Question numéro 5. Pour vous deux, 3 propositions. Rapidité. Une sorte de Julien Lepers du pauvre en essayant de mettre des mots les uns à côté des autres, mais sauf qu'avec Julien il y avait quand même une cohérence et on comprenait. Avec moi on comprend pas, il y a juste des mots les uns à côté des autres. Qui est la Britannique Ella Slack? 3 propositions, vous me laissez les énoncer toutes les 3 et le plus rapide aura gagné. La femme qui est doublure de la reine depuis 30 ans dans toutes les cérémonies officielles, la reine d'Angleterre bien sûr, c'est le vrai nom d'Amy Winehouse ou la première femme ministre dans un gouvernement britannique?
Moi, je dirais 1.
C'est la doublure de la reine.
J'ai dit 1 d'abord.
Et oui, alors Stéphane, apprenez-le. Quand c'est un test de rapidité, il vaut mieux donner le numéro de la réponse que de l'énoncer entièrement. Vous aviez, vous aussi, Stéphane, la bonne réponse. Mais c'est Clémentine qui s'est montée la plus rapide.
Écoutez,
Non.
Alors, je demande la photo. C'est comme au tiercé.
Là, vous avez perdu, Stéphane.
Réécoutez.
Eh bien, écoutez, on me dit en régie, ils ont la photo déjà. Ah, réécoutons.
Moi, je dirais 1.
C'est la doublure de la reine.
Oh, mais voilà, vous voyez bien que vous avez perdu, Stéphane. C'est donc cette Ella Slack, la doublure de la reine Elisabeth. Elle ne lui ressemble pas, mais elle a le même gabarit. Ancienne employée de la BBC depuis 30 ans.
Oui, exactement.
Elle double la reine dans tous les événements retransmis à la télé pour les répétitions. Elle fait tout comme la reine, sauf s'asseoir sur le trône. Ça, c'est quand même interdit. Vous l'avez rencontrée, Stéphane, cette Ella Slack?
La doublure, j'ai fait une pub dans mes jeunes années où je proposais un prêt à la poste à la fausse reine d'Angleterre, mais la vie de Garbane.
Je l'ai pas cette pub là, Stéphane, si vous pouvez me l'envoyer.
Et elle me répondait, il y a pas écrit la poste là. Mais comment elle s'appelait?
Vous acceptez toujours les meilleurs scénarios pour les pubs, Stéphane.
Oh, mais oui, mais vous savez, j'ai quand même...
Des impôts à payer, Stéphane, je sais.
Non, c'est pas ça. J'ai aussi fait la pub des chocolats Lanvin juste après Salvador Dali. Et oui, j'ai un point commun avec Salvador Dali.
C'est peut-être le seul, mais c'est
très
important.
Mais vous n'aviez pas la moustache qui frisait, comme ça, je suis fou.
Exactement.
Il n'a pas la moustache qui frise, il n'a pas non plus la win, puisqu'il a encore perdu, Stéphane, nouvelle défaite dans le quiz.
Et
Clémentine,
ça devient lassant,
Portier Kaltenbach grâce au pipi de Joséphine.
(rire) 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre chaque après-midi, l'histoire sans se la raconter, en compagnie de deux zigomars à qui le mélange des genres ne fait pas peur, ma pomme et celui dont la silhouette se rapproche plutôt d'une poire, l'ami Stéphane Bern.
Oh, merci mon cher Mathieu pour ce portrait flatteur.
Vous avez vu.
Faites attention quand même, la poire ne sera pas toujours aussi bonne. Bienvenue en tout cas. Si vous nous rejoignez dans Historiquement Vôtre, spécial les moustachus de l'histoire.
On sait qu'on a oublié Tom Selleck, on en a oublié 2-3.
Ah oui, c'est vrai. On a préféré évoquer Groucho Marx dans cette deuxième heure. On va parler maintenant de Salvador Dali avec quelqu'un qu'il a bien connu, qui a même partagé ses pinceaux, enfin sa vie.
Et son lit, soyons précis Stéphane, hein, on peut être précis
sans être salace Mathieu. Ah oui, Amanda Lear sera avec nous, et quant à vous, vous rendrez hommage à un moustachu qui, j'ose dire, vous hante encore tellement, vous l'admirez.
Oui, je vous parlerai de Jean Rochefort, que j'avais eu la chance de rencontrer chez lui quelques années avant sa mort, et j'essaierai de vous montrer Stéphane ce qu'est un vrai gentleman.
Et n'oublions pas nos gentlemen à nous, David Cachel-Lopez, qui nous raconte les origines d'une pratique qui concerne les femmes particulièrement. N'est-ce pas, David? Je vous laisse expliquer.
Oui, tout à fait. Oui, enfin, on vous laisse expliquer. Oui.
J'ai décidé de la circonscrire moi-même aux femmes, parce que ça peut concerner les hommes aussi. Il s'agit de l'épilation des parties en bas.
Des parties en bas, et à chaque fois vous laissez planer un doute sur les parties
dire le
du bas,
mot,
parce
voilà.
qu'on peut s'épiler les
maillot,
mollets.
Disons, voilà, le maillot, mais un peu plus que le maillot, et je vais essayer de déterminer depuis quand est-ce que les filles font ça, en particulier, parce que ça existait déjà dans l'Antiquité, mais récemment il y a eu un revirement, et j'aimerais savoir depuis quand est-ce qu'il a eu lieu.
Et puis avec Olivier Pouls, alors là on va s'intéresser au tablier de sapeur.
Bah oui, on ne s'est pas consulté avec David, mais c'est vrai qu'on peut trouver un petit point commun quand même, nous nos personnages aussi, voyez-vous. Mais non, moi, c'est le tablier de sapeur, le vrai, celui qui se mange à Lyon, bien sûr, le gras double.
Le gras double, là, c'est vraiment une recette détox idéale pour affronter l'hiver.
Ouais,
c'est
vrai que ça tient encore. Avant les fêtes.
Détrompez-vous.
Vous allez nous dire, ça c'est vraiment un scoop européen, que le gras double est léger.
Bah oui.
Très bien. Eh bien, nous notons, c'est une émission surréaliste, c'est pas pour rien qu'on va parler de Salvador Dali. Les dés sont pipés. Voilà une expression vraiment étrange.
D'où ça vient ? Vous savez, on le dit chaque fois qu'on a l'impression, par exemple, pour le quiz chaque jour. Je dis toujours, les dés sont pipés.
Mais on ne sait pas pourquoi vous le dites, puisque le quiz
parce que
est parfaitement
vous
légal.
Réservez les oui, bien sûr, mais vous savez qu'il n'y a pas d'huissier. Enfin, tout ça est fait en dépit des règles de la morale et de la justice. Mais enfin, peu importe, on s'amuse, c'est l'essentiel.
Mais tout de suite, Stéphane, avant de découvrir le sens de l'expression « les dés sont pipés » et depuis quand les femmes s'épilent-elles le milieu du corps. Tout de suite, Stéphane, essayons de décrypter l'homme qui se cachait derrière une emblématique moustache, le peintre de génie Salvador Dali.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Salvador Dali est célèbre autant pour ses moustaches que pour son excentricité. La preuve, nous sommes le 25 janvier 1989 à Figueras, dans la maison du peintre. Dali, décédé deux jours plus tôt, est sur le point d'être enterré. Une mise en scène grandiose est déjà en place. Après un embaumement qui a duré plusieurs heures, l'artiste apparaît au public allongé dans son cercueil, ses moustaches toujours à 10h10 parfaitement gominées. Dali est vêtu d'une tunique de soie sur laquelle sont brodés au fil doré ses armoiries de marquis de Poubol, un titre qui lui a été conféré quelques années avant sa mort par le roi d'Espagne, Don Juan Carlos I. L'artiste doit être enterré dans son musée-théâtre sous la coupole d'une sorte de chapelle Sixtine surréaliste qu'il a lui-même imaginée. Plus de 30 000 personnes défilent pour rendre à Dali le dernier hommage qu'il mérite. Cette cérémonie grandiose est l'ultime caprice du génial et égocentrique Salvador Dali. Mais revenons aux origines. En 1901, les parents de Dali, notables à Figueras, dans le nord de l'Espagne, ont un premier enfant qu'ils prénomment Salvador. Mais le bébé, atteint d'une méningite, meurt avant ses 2 ans. Le 11 mai 1904, 9 mois après cette perte terrible, un autre enfant naît. Il l'appelle lui aussi Salvador. Le futur artiste grandit dans la chambre de son frère et porte ses habits. Il ressemble beaucoup au petit garçon disparu et c'est un traumatisme qui le marque à vie. Toutes les excentricités que je commets sont la marque de ma vie. Je veux me prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le vivant, écrira-t-il plus tard. Attirer l'attention, telle l'obsession du jeune Dali. Petit, il fait ses besoins dans des endroits incongrus de la maison, comme les placards ou les chaussures. Ses parents, très protecteurs, laissent leur fils développer son caractère pour le moins original. À 18 ans, Salvador Dali intègre l'école des beaux-arts de San Fernando à Madrid et se fait remarquer, certes pour son immense talent, mais aussi pour ses tenues excentriques. Il tient d'une canne à pommeau dorée, porte une veste en velours, les cheveux longs, des pattes lui arrivent au milieu des joues. À la fin des années 20, Salvador Dali se rend à Paris et fait la connaissance d'André Breton, Paul Éluard et René Magritte. Des artistes surréalistes dont il rejoint rapidement le groupe
animés par le même objectif qu'eux, libérer la création de toute contrainte en utilisant l'absurde et l'irrationnel. Pendant les vacances, le poète surréaliste Paul Éluard et sa femme Elena, surnommée Gala, rendent visite à Salvador Dalí en Espagne. Oh, c'est le coup de foudre entre Dalí et Gala, de 7 ans son aîné. Gala devient sa principale source d'inspiration, sa muse, à qui il dédie nombre de ses œuvres, et puis elle devient sa femme aussi. Dans les années qui suivent, le peintre expose, la notoriété de Dalí explose. Il peint son célèbre tableau, La persistance de la mémoire, aussi appelé les montres molles. Il s'éloigne des surréalistes farouchement opposés au nazisme en proclamant sa fascination pour le dos tendre et dodu d'Hitler, toujours si bien sanglé dans son uniforme. Il qualifie aussi le Führer de phénomène surréaliste absolument fantastique. C'en est trop pour l'écrivain André Breton, chef de file des surréalistes, qui exclut Dalí du mouvement. Dalí sait peaufiner son personnage d'artiste extravagant et volontairement provocateur. Il organise un véritable culte autour de sa personnalité, se faisant appeler maestro par son entourage ou se livrant à diverses excentricités. « J'ai beau être très connu, raconte-t-il à Noël l'année dernière, on m'a offert une petite clochette. » Je me promenais dans les rues de New York et chaque fois que j'avais l'impression que les gens ne faisaient pas assez attention au divin Dalí, j'agitais la clochette. Il m'était insupportable de penser qu'on pût ne pas me reconnaître. Mais son accessoire indispensable n'est pas une clochette, c'est évidemment sa moustache en croc. Le peintre espagnol en prend grand soin, l'enduisant de miel ou de jus de datte pour la faire tenir. Il raconte même qu'il lui arrive d'utiliser du sperme. Mais difficile avec Salvador Dalí de discerner le vrai du faux. Ce comportement farfelu lui ouvre en grand les portes de la gloire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dalí s'installe aux États-Unis où, comme preuve de reconnaissance, s'il en fallait une, il fait la une du Time Magazine. Salvador Dalí, avec Gala qui négocie ses contrats, multiplie les commandes commerciales. Il crée une boîte de nuit pour la chaîne d'hôtels Sheraton, dessine un costume pour Dior, lance son propre parfum ou encore tourne dans une publicité restée célèbre que je vous ai mentionnée tout à l'heure, les chocolats Lanvin.
Je suis fou du chocolat Lanvin.
Eh oui, ses activités lui rapportent gros, Mathieu. Ça tombe bien, Dalí adore l'argent. Ce n'est pas pour rien qu'André Breton le surnomme avec un brin de mépris « Avida Dollar », l'anagramme de Salvador Dalí. À partir de 1949, le couple s'installe dans sa maison de Portlligat, en Catalogne. À l'entrée, le visiteur est accueilli par un ours empaillé. Puis les pièces se succèdent parsemées d'objets hétéroclites comme un canapé en forme de bouche ou une lampe réveil en forme d'escargot. Dans le jardin, la piscine de forme phallique vaut aussi le coup d'œil. C'est vrai que le sexe et l'amour tiennent une grande place dans la vie de Salvador Dalí. À Portlligat, comme bien que Gala soit à ses côtés, Dalí accueille au milieu des années 60 une nouvelle venue dans la villa. Une certaine Amanda Lear, une étudiante aux Beaux-Arts, une jeune mannequin qui aime faire la fête. C'est d'ailleurs lors d'une fête chez Castel que ces deux-là se sont rencontrés. Il a 60 ans, elle en a 42 moins. Reste à faire accepter la jeune fille par Gala, qui a, elle aussi, tendance à aller s'amuser ailleurs, parfois. Avec des gigolos, raconte l'histoire. Quoi qu'il en soit, tous acceptent ce ménage à 3, 4 ou plus. Il faut dire que les Dalí forment depuis longtemps un couple libre. Lorsqu'il vivait à New York, déjà Dalí organisait des soirées libertines avec l'aide d'un certain Jean-Claude Dubarry qu'il appelait son officier du cul. Ses invités s'adonnaient au clédalisme, une pratique sexuelle inventée par l'artiste.
Racontez-moi
un
ça.
Condensé des divers fantasmes de Dalí, sadisme, voyeurisme, masturbation et bien d'autres. Mais par respect pour vos chastes oreilles et celles de nos auditeurs surtout, je n'entrerai pas ici dans les détails. Pour Salvador Dalí, la vie est plutôt belle jusqu'à ce jour funeste du 10 juin 1982 où Gala meurt à l'âge de 89 ans. 6 ans plus tard, le 23 janvier 1989, Salvador Dalí s'éteint des suites de la maladie de Parkinson. L'artiste, à la vie surréaliste, est enterré dans le musée contenant nombre de ses œuvres qu'il avait lui-même créées. Récemment, en 2017, son corps est exhumé pour un test ADN. Le légiste n'en revient pas.
Comment ?
28 ans après la mort de Salvador Dalí, les pointes de sa moustache se tenaient toujours aussi droites.
toujours à 10h10, évidemment.
Europe 1, historiquement vôtre.
Elle a partagé sa vie, elle a partagé son lit, elle a même partagé Dali. Amanda Lear est en ligne avec nous cet après-midi pour nous parler du peintre surréaliste à la vie qu'il était tout autant, visiblement. Bonjour Amanda.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Amanda.
Bonjour Stéphane.
Alors déjà Amanda, une réaction à ce portrait. Est-ce que tout est vrai?
Je suis effondré, évidemment. tout ce racontard sur sa vie sexuelle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, passons. C'est pas grave. Vous aimez ça, les potards.
Ça fait partie de la légende de Dali.
Mais oui, je sais, c'est. Enfin, pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure, non, Dali ne s'épilait pas le maillot, mais c'est vrai qu'on se souvient beaucoup de sa fameuse moustache. Alors, oui. Cette fameuse moustache, moi, je déplore ça, vous voyez, parce que Pourquoi? Quand on pense à Dali, on se rappelle de quoi? Ben, on se rappelle de sa moustache et de ses excentricités, comme vous l'avez rappelé, Stéphane, et c'était un excentricité.
Mais on va parler de son œuvre.
Oui. Mais voilà, exactement. Parlons surtout d'un très grand peintre, incroyable, qui est dans tous les musées du monde, qui était un peintre immense. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer. Oui, dites-moi, Mathieu.
Amanda, je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez avant. Vous semblez dire
que vous disiez, Amanda, que
quelque part, vous regrettiez que cette moustache soit devenue le symbole de Dali et qu'on se souvienne de ça plus que de son œuvre. Mais je suis pas d'accord. Il était d'accord pour ça. C'est lui-même qui a façonné cette image et il savait que
ça permettait que des années après,
on parle encore de lui et de son œuvre par extension.
Et vous savez, il admirait beaucoup les grands peintres classiques espagnols, dont Velázquez, et tous les portraits que peignaient les peintres à l'époque du roi d'Espagne. Justement, sur ces portraits, si vous regardez, il portait la moustache comme ça, comme disait Stéphane, à 10h10. C'était la mode de l'époque. Mais de nos jours, on ne porte plus la moustache comme ça. Donc, ça, vous savez, je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est un problème d'érection. C'est la moustache. Vous savez, parce qu'il faut qu'elle se tienne droite. Comme on est, les moustaches, ça ne tient pas droit. Et alors, il y avait tout un cérémonial qui consistait à faire redresser sa moustache.
Et alors, comment,
Ah ben oui, alors le secret de sa fameuse moustache, c'est qu'il mettait de la cire. Pas du tout comme Stéphane disait, du sperme, mais
des tas de saloperies comme ça.
Non. Il enduisait ses moustaches d'abord d'une cire qui, en durcissant, les faisait tenir droites. Et surtout, comme il était très coquet, parce qu'il était très vaniteux.
Coquet, en quel sens du terme?
Ben oui, il les maquillait. Ah. Parce que, en vieillissant, la moustache était grisonnante. Enfin, quand je l'ai connu, déjà, sa moustache était bien grisonnante. Et alors, il m'empruntait, figurez-vous, mon crayon à yeux. Et donc, elles étaient bien noires, ces moustaches.
Cela dit, il était fascinant. Je parlais du club des surréalistes. Vous étiez à ses côtés quand il peignait. C'était pas ennuyeux. Vous avez été sa muse, son modèle aussi. Il préférait peindre ou faire l'amour.
C'était un immense travailleur. Il travaillait du matin au soir. Il était extrêmement discipliné. Tous les jours, de telle heure à telle heure, il était dans son atelier à Cadaqués. Et moi, je passais des après-midi entières avec lui, tous les deux enfermés dans l'atelier. Moi, je lui faisais la lecture à voix haute, pendant que lui peignait dans le silence. Comme ça, il n'y avait pas de musique. Et c'était extraordinaire de le regarder peindre, parce qu'il était très minutieux, très lent, très laborieux. Des fois, ça prenait des semaines et des semaines pour finir un tableau. D'autres fois, il les bâclait un petit peu quand c'était une commande qui l'emmerdait, il n'avait pas envie de la faire. Mais c'était très fascinant de le regarder et travailler, justement.
Est-ce que vous diriez que vous avez une influence sur son travail, Amanda? Et réciproquement,
Vous savez, c'est le rôle de muse, c'est pas très défini, le rôle de la muse. est-ce que c'est seulement celle qui pose? Alors non, celle qui pose, c'est uniquement le modèle.
Non, c'est celle
évidemment,
qui inspire.
Je posais aussi pour lui, nu ou habillé, pour des croquis, des dessins. Mais la muse est plus que ça, c'est une présence, voilà. Et cette présence, le créateur, le peintre en a besoin. Et j'étais très honoré pendant 15 ou 20 ou 17 ans d'être là à ses côtés.
Vous avez été donc la muse et la compagne de Dali pendant une quinzaine d'années. Est-ce que vous avez tout partagé avec lui?
Sauf le lit, évidemment, puisque Dali était
vous
impuissant.
Avez jamais... Ah, il était impuissant.
Mais ni moi, ni sa femme, ni personne. Dali était totalement impuissant et n'a jamais, jamais, jamais été intéressé par ce que vous appelez la bagatelle. C'était uniquement sur un plan cérébral, peut-être voyeur, peut-être fantasmeur. Mais tout ça, c'était des allucubrations dans sa tête. Non, physiquement, c'était pas le genre qui vous sautait dessus. Non. On pouvait se déshabiller tranquillement devant lui. On était.
Mais c'est vrai que Gala prévoyait que si jamais elle venait à disparaître, elle était plus plus âgée que lui, et elle voulait que vous puissiez l'épouser.
Kala était une femme admirable. J'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que elle n'était pas jalouse, alors que moi je suis très jalouse, toutes les femmes sont jalouses. Vous voyez une petite jeunette en mini-jupe qui débarque pour séduire votre mari.
Oui. Aujourd'hui, dans l'autre sens, ça. Vous n'accepterez pas cette situation.
Voilà, Amanda, hein. J'accepte, c'est très contrariant. Elle, non, elle a dit, écoutez, moi j'en ai soupé de mon mari, ça fait 50 ans que je suis mariée avec lui, donc franchement, j'ai donné. Si ça l'amuse de sortir avec vous, tant mieux. Moi, ça me laisse plus de temps libre pour aller au théâtre, pour aller faire du shopping. Donc, bienvenue, voilà les clés de la maison, voilà votre chambre, et voilà, you're welcome. Et c'est vrai que quand elle a vu que je m'occupais bien de Dali, qu'il avait besoin de moi, que je l'accompagnais dans ses voyages, elle a senti la fin venir. Elle m'a appelé à part dans sa chambre et elle m'a dit, écoutez, je vais bientôt disparaître. Jurez-moi sur l'icône. Alors, il y avait une icône, elle était russe. Elle avait une icône de la Vierge Noire de Kazan. Elle m'a dit, voilà, jurez-moi sur l'icône de la Vierge que vous épouserez Dali quand je ne serai plus là. Mais j'ai dit, mais je ne veux pas faire une chose pareille, gars-là. Si, jurez, parce que je ne veux pas qu'il soit tout seul. Jurez-moi que quand je ne serai plus là, vous ne l'abandonnerez pas. Et ça, c'était très touchant de la part de... C'est une grande preuve d'amour de sa femme.
Mais vous avez refusé, évidemment.
Ah ben évidemment, moi, c'était pas trop mon genre d'homme, Dali, physiquement. J'avais beaucoup de tendresse et d'affection pour lui.
Les impuissants ne sont pas votre genre d'homme, Amanda.
Moi, si je joue pas de ça, à l'époque, vous savez, si je jouais pas de la guitare et avec des violons, ça m'intéressait pas. Moi, fallait...
En tout cas, c'était merveilleux de parler de Salvador Dali avec, et de sa moustache avec vous, chère Amanda. Merci, Amanda.
Mathieu, si vous voulez me plaire, laissez-vous pousser la moustache.
Voilà. Allez, écoute, on va s'y employer.
Secret.
On va s'y employer.
Merci,
Amanda.
Merci beaucoup.
Merci,
Amanda.
On vous embrasse, Amanda.
Ici, Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque les plus glorieux moustachus de l'histoire. Après Groucho Marx et Salvador Dali, vous nous livrez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un grand acteur français dont l'âme était, selon vous, aussi impeccable que sa belle moustache.
S'il existait une échelle de la classe qui irait d'un candidat de télé-réalité participant au Ch'ti à Mykonos en pantacourt à Dieu, Jean Rochefort serait tout en haut, aux côtés du Saint-Père. C'est là en tout cas qu'il plane dans mon cœur, au-dessus de tous les autres acteurs français décédés, pour la simple et bonne raison que parmi tous les personnages que j'évoque dans 99% vrai, Jean Rochefort est l'un des seuls que j'ai vraiment eu la chance de rencontrer, contrairement à Kim Jong-un, au sujet duquel, je le confesse, j'ai affabulé. Ce qui suit est donc le simple témoignage d'un jeune homme encore au printemps de sa vie, rencontrant un homme déjà à l'automne de la sienne.
Tu parles bien quand tu veux.
Merci. Jean Rochefort est entré dans ma vie très tôt. Lorsqu'enfant, je regardais Winnie l'ourson le dimanche matin à la télé. Dessin animé qu'il présentait, levé dans un fauteuil aussi moelleux que lui. Je n'avais pas encore vu Le mari de la coiffeuse, Tandem, Un éléphant ça trompe énormément, Que la fête commence. Mais déjà, cette moustache m'inspirait confiance. Je ne savais pas qu'un jour il me recevrait chez lui, en forêt de Rambouillet, avec plus d'égard que si j'avais été un prince de sang, alors que j'étais à l'époque stagiaire assistant de production et que ma seule raison d'être à ses côtés cet après-midi-là était d'appuyer sur le bouton on du Nagra, l'enregistreur qu'on utilise en radio, au début de l'interview du vrai journaliste pour lequel je travaillais. Puis, ce serait mon deuxième moment de gloire, appuyer sur le bouton off à la fin de l'interview. En dépit du caractère dramatiquement anecdotique de ma personne et de ma fonction ce jour-là, Jean Rochefort, qui était déjà mon idole, me reçut avec des égards dont je n'aurais pas pu rêver, m'invitant à prendre le thé avec lui et à visiter ses écuries tout en me racontant des anecdotes sur Jean-Pierre Marielle. J'étais un peu dans le même état d'excitation que Stéphane Bern si la reine d'Angleterre l'invitait à jouer au Jokari à Buckingham.
Ça, c'est bon, ça.
Oui, l'ambiguïté sexuelle en moins, évidemment. Cet accueil chaleureux me prouva ce que j'avais toujours pressenti confusément depuis Winnie l'ourson. Jean Rochefort était un type formidable. Il vient au monde le 29 avril 1930 en Bretagne. Au sein d'une famille austère et corsetée, élève médiocre, pour ne pas dire nul, il subit sa scolarité et souffre de la comparaison avec son frère aîné, Pierre, brillant élève qui deviendra ingénieur général de l'armement. Sa vocation d'amuseur ne fait pas du tout rire son père Célestin. Quand il lui annonce qu'il compte vraiment devenir comédien, ce dernier lâche cette phrase terrible « La guerre arrangera tout ».
Ses parents, qui habitaient Nantes, n'iront jamais le voir lorsqu'il intégra l'école de la rue Blanche, puis le prestigieux conservatoire de Paris. C'est pourtant là qu'il se révéla à lui-même et aux autres, là aussi qu'il se fit des amis pour la vie, Jean-Paul Belmondo, Claude Rich, Jean-Pierre Marielle. Seulement voilà, après le conservatoire, Jean Rochefort connaît une période de découragement. On aurait pu ne jamais connaître Jean Rochefort, qui restait prostré dans sa chambre toute la journée, si son ami Marielle ne l'avait pas un matin convaincu de se rendre à une audition où il ne voulait pas y aller, il ne croyait plus à son destin d'acteur. « Tu iras, le bus est direct, je te donnerai la réplique », lui intima Marielle. Et Jean fut pris. À 23 ans, il intégrait la compagnie de théâtre Grossier-Husseneau. S'en suivront pas moins de 130 films, deux Césars. Sur la fin de sa vie, Jean Rochefort déclarera « J'appartiens au patrimoine, il y a le jambon de Bayonne, Noiret, Marielle et moi ». Tour à tour, libertin cynique dans Que la fête commence de Bertrand Tavernier, valet british dans Les tribulations d'un chinois en Chine de Philippe de Broca, pharmacien lâche dans Courage fuyons d'Yves Robert, père de famille roi du cocufiage dans Un éléphant ça trompe énormément, époux exemplaire dans Le mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte. Il incarne dans Tandem aux côtés de Gérard Jugnot une vedette de la télé ne supportant plus l'accoutrement des pauvres qu'il croise lors de ses tournées en province, un personnage largement inspiré de Stéphane Bern, avouera-t-il des années après.
Ça suffit! Vous avez assez bouffé! Il y a tout de même des limites! Allez hop! Remballez! Vous êtes la honte du paysage français! On devrait créer des brigades esthétiques et interdire le port du survêtement en dehors de l'enceinte des stades! Ah! Ils vont se multiplier! Faut leur enlever la garde de leurs enfants! Bien mieux! On va les stériliser!
Parmi sa filmographie, l'épice vinaigre noteront un certain nombre de films, disons, discutables. Jean Rochefort avait une explication pour ça. Il fallait payer l'avoine de ses chevaux. Propriétaire d'un haras et passionné d'équitation, il avouait parfois tourner des films « avoine-foin », comme il les appelait, afin d'entretenir ses chevaux qu'il aimait plus que tout, parfois même. Même moi, je l'avoue, il les aimait un peu trop.
Les chevaux me bouleversent et m'ont toujours bouleversé. C'est étrange, c'est tellement beau. Et puis ce contact, hein, les lèvres. Les lèvres d'un cheval. Nettoyer une vulve de jument, c'est passé un beau dimanche.
Nettoyer une vulve de jument, c'est passé un beau dimanche. Voilà une idée originale pour occuper les enfants pendant le confinement. On n'y pense pas assez. Oui, Jean Rochefort aime le poil, d'où la moustache. Alors au fil du temps, elle lui est devenue consubstantielle. Rochefort sans sa moustache, c'eût été comme un gigot sans patate, un dimanche sans ennui. Rochefort sans sa moustache, c'est un homme autre.
Enfin, vous voulez dire nu, quoi.
Eh oui, cette moustache a une histoire. Elle n'est pas née, comme pour certains d'entre nous, d'une simple lubie esthétique ou d'une prise de conscience devant un clip des Village People.
Ça, c'est bon, ça.
Non, lui, il racontait au Festival d'Avoriaz en 94, « À l'âge de 40 ans, j'ai joué le misanthrope. Ma fausse moustache partait tout le temps, alors je décidais de faire pousser la mienne, la vraie. Puis je l'ai gardée parce que, quand je l'enlève, j'ai l'impression de ne plus avoir de slip. Je ne l'ai rasé qu'une fois, dit-il, pour Ridicule, de Patrice Lecomte. Et sans moustache, j'ai l'air de ce que je suis. » Une vraie saloperie. Sans moustache, j'ai toujours eu un air un peu faux-derche. Et sexuellement, je crois que ça me faisait du tort. Clairement, messieurs, Jean Rochefort l'a prouvé, car croyez-moi, il a pécho. La moustache, c'est le push-up des hommes. Pour Jean Rochefort, la moustache n'était pas un outil seulement de séduction, c'était aussi un paravent pour sa timidité, sa grande pudeur. Car s'il aimait se moquer des navets qu'il avait tournés, il était moins disert sur ses grands rôles et les Césars qu'il lui avait valus. Même lorsqu'on lui demandait de commenter son succès qui persistait à plus de 80 ans, il s'en tirait d'une pirouette. Plus mes copains meurent, plus je reçois de scénarios. Reste cette question, pourquoi, lorsqu'il se fait pousser la moustache, Jean Rochefort ressemblait à Jean Rochefort en mieux? Et pourquoi, quand moi j'essaye de me faire pousser la moustache, je ressemble à un acteur de porno mexicain des années 70 en pire? De même qu'il y a des têtes à chapeau, il doit y avoir des têtes à moustache, et la plus illustre nous a quittés en 2017. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit cet après-midi, ou par hasard, quand je m'étais retrouvé à jouer les ingénieurs du son chez lui à Rambouillet.
Hey, regarde-toi, faut que tu t'aères, t'es tout gris, tout gonfré.
J'avais 27 ans, lui 76, mais avec ou sans moustache, j'étais déjà, et pour toujours, beaucoup moins jeune que lui.
Bravo, Mathieu.
C'était ma petite
c'était
émotion.
Beau.
Oui.
Ah ouais.
Mais c'est fabuleux
moi,
de rencontrer quelqu'un
aussi.
Dont on est secrètement, enfin, dont on est épris d'un point de vue artistique, de rencontrer que cette personne est à la hauteur de ce que vous avez imaginé.
Oui.
C'est pas si fréquent.
Pas de déception.
Et je parle pas de vous, Stéphane, vous, ça a été la même chose, mais c'est vrai que c'est rare. Souvent, on est déçu par les gens qu'on idolâtre. Et ben là, voilà.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il y a des sujets plus difficiles que d'autres à vendre. En conférence de rédaction, David Castello-Lopez a préféré ne pas nous le vendre et nous l'imposer.
Subrepticement,
c'est trop tard. Comme ça, on le découvre à l'antenne, un sujet étonnant.
Tout à fait. Mathieu, comme moi, vous êtes né au début des années 80.
Oui.
Et donc, comme moi, vous avez connu les catalogues de vente par correspondance.
Oh.
La Redoute, Quel, Les Trois Suisses. Et vous vous souvenez peut-être de ce qu'on y voyait. Il y avait notamment des filles super jeunes et canons qui portaient des robes de vieilles. Ça, c'était très courant.
C'était très choquant, ça, en fait.
Ouais.
ouais. Peut-être ce qu'il y avait de plus choquant.
Il y avait la section vêtements pour enfants où il y avait des bébés de 4 ans et demi qui avaient des meufs et qui se baladaient sur la plage avec leurs meufs, alors que moi j'avais pas de meufs, donc c'était m'énervait un peu. Et puis surtout, il y avait les pages lingerie. Et dans les pages lingerie, il y avait quelque chose que j'aimais par-dessus tout, c'était les femmes qui portaient des culottes transparentes qui laissaient deviner ce qu'il y avait derrière. Et ce qui se voyait derrière se voyait mieux chez les brunes que chez les blondes. Je ne sais pas si je suis clair.
Écoutez, on ne peut pas faire plus clair, non, je pense, David. D'accord. On vous suit.
Alors, on ne peut pas... À une heure de grande écoute, on ne va pas raconter ces histoires-là.
Pas, pas en faisant des périphrases.
Si, si, ça marche. Oui.
Voilà.
C'est la licence poétique.
Exact. Alors aujourd'hui, les filles de la Redoute, elles ont toujours des culottes transparentes, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien à laisser deviner.
Elle
ni chez
deviner,
les brunes,
bah oui.
Ni chez les blondes. Alors il y a plein de gens qui trouvent ça super, hein, parce qu'ils trouvent que les poils, c'est moche. Moi, ça me fait de la peine. Voilà, c'est comme ça. Je voulais une petite confidence. Et j'ai donc voulu savoir depuis quand est-ce que les filles avaient commencé à s'épiler en bas. Et pour étudier la question, j'ai pensé à utiliser le plus célèbre magazine de filles toutes nues de l'histoire du monde, à savoir Playboy.
Ah oui.
Et j'ai en particulier utilisé un gros livre que j'ai amené ici. Alors, je sais, je vais le garder à la main, mais c'est un très
magnifique,
gros livre.
Magnifique, magnifique.
Voilà, qui doit peser vraiment 5 kilos et qui répertorie la totalité des posters centraux de Playboy depuis 1953. Alors, j'ai regardé l'ensemble de ces 735 filles qui sont dans le livre et j'ai pour chacune d'elles donné une note de poil, si vous voulez, ou plutôt, j'ai envie de dire, un indice d'abondance, vous voyez. Donc, un indice qui va de 0 à 5, où 5, c'est le maximum. 4, c'est de légères modifications apparentes. 3, 2, 1 et 0, c'est qu'il ne reste plus rien du tout. J'ai mis tous ces chiffres dans un tableau Excel. Et comme je suis pas...
Le pire, c'est que quand on vous connaît, on sait que vous l'avez vraiment fait.
C'est vrai. Et comme je suis pas hyper fort en statistique, pour analyser ces données, j'ai fait appel à mon ami Manu, dont vous vous souvenez
peut-être. Ah oui, je me souviens de Manu. Qu'est-ce que vous avez fait avec lui?
Les pistaches dans le...
Les pistaches qu'on remettait à l'hôtel.
Qu'on remettait
dans
à l'hôtel pour faire, qu'on faisait pour faire semblant qu'on n'avait pas mangé le paquet
pour
de pistaches
pas payer
du minibar. Exactement. Donc mon ami Manu, qui lui est super fort en Excel, et on a découvert ensemble un certain nombre de réalités. La première, c'est que jusqu'en 1971, on voit jamais les poils. Voilà. Les filles, ah oui. Elles sont soit à plat ventre, soit de dos, soit cachées par des choses. Pourquoi? Eh bien, parce que à ce moment-là, le poil est trop porno pour être montré. D'ailleurs, le fondateur du magazine Screw en 1968, qui se voulait un concurrent plus porno.
Ah oui, parce que
Playboy,
rien que son titre, hein, Screw,
oui,
si
voilà,
on pouvait le traduire, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais.
C'est un mot d'argot pour dire faire la chose.
Oui,
en
faire
anglais.
La chose voilà. Frontalement.
Eh bien, ce monsieur-là, il disait, dans notre magazine, nous promettons de ne jamais cacher un poil pubien.
C'était un bel engagement.
C'était un engagement qui prouvait bien que les gens voulaient les voir. Dans Playboy, la première fille dont on voit les poils, elle n'arrive qu'en janvier 1972, et évidemment, elle a un score de 5. Deuxième chose qu'on a vu avec Manu, entre 1973 et 2012, la quantité moyenne de poils des filles de Playboy, eh ben, elle s'est effondrée.
Vous avez compté, vous avez fait du comptage poil par poil, David.
Mais oui, faut voir ici, on peut pas montrer à la caméra parce que c'est licencieux, mais vous voyez, il y a
des... Et surtout, c'est de la radio.
Voilà.
c'est surtout ça qui limite un petit peu.
C'est un petit peu
filmé. Je peux vérifier, je peux me...
Oui, voilà. Olivier,
qui
a des notes comme ça.
Olivier, qui est l'expert belge du poil. Voilà. Vous allez pouvoir vérifier.
Il est bien votif. Je peux vous l'échanger contre un livre de recettes vegan.
Et donc l'indice d'abondance de poils des filles de Playboy est passé de 4,8 sur 5 en 1973 à 0,6 sur 5
en 2012. Ah, c'était
précis,
il y a des décimales.
Voilà. Et la première fille qui a posé entièrement modifiée, rasée, c'est Gillian Bonner en 1996. Donc c'est de là que date, pour Playboy au moins, le tournant. Pour l'anecdote, depuis Gillian Bonner, elle a monté une agence immobilière. Voilà, elle est sortie du métier. Et aux dernières nouvelles, elle tenait un magasin de choses ésotériques à Los Angeles. J'ai appelé plein de fois ce magasin pour essayer de l'interviewer.
Ah ouais,
mais je pense qu'elle n'a plus super envie de parler de cette époque. En tout cas, elle ne m'a jamais répondu tout en disant oui, elle vous rappellera, m'a jamais rappelé. Le poil, donc, il a disparu. Et moi, j'ai une petite théorie personnelle sur pourquoi le poil a disparu. Je veux dire, quand les femmes étaient cachées de la tête aux pieds dans des robe immense, voire une cheville, c'était porno. Mmh. Quand elles ont commencé à montrer leurs jambes, les décolletés plongeants, c'était porno.
Oui.
Quand elles posaient toutes nues, c'était dingue, c'était super porno de voir leurs poils. Et quand on a commencé à voir leurs poils, il a fallu voir encore plus, et donc enlever les poils pour voir ce qu'il y avait derrière. Une théorie entièrement personnelle.
Mais c'est une théorie à laquelle je souscris, mais qui pose une question, quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, bon, il y a une petite lueur d'espoir pour les gens comme moi, c'est que l'indice de poils des filles a recommencé à augmenter légèrement depuis 2012.
Écoutez, j'ai l'impression aussi, moi je suis abonné au magazine magazine Historia, donc j'ai pas les mêmes références que vous, mais je note qu'on va vers un retour du poil.
Oui, mais cette petite augmentation, je sais pas si c'est une anomalie dans la marche
c'est
de l'histoire.
C'est lié au ticket de métro, je crois.
Peut-être. Mais ce que j'espère, moi, c'est que c'est un mouvement qui va faire revenir le monde de ma jeunesse, celui des catalogues de la Redoute qu'il essaie de deviner.
Le voilà. Retour de poil qu'il appelle de ses vœux.
Le retour des catalogues de la Redoute.
Cette chronique me laisse pantois, là, je vous avoue.
Ah oui, moi aussi.
Il joue les vierges effarouchées.
C'était une chronique au poil. Merci David. Allez, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Olivier Pouls, vous êtes prêt à nous parler du tablier de sapeur, ce plat dont je ne connaissais même pas l'existence et qui aurait un rapport vague avec le poil ?
Non.
Vous le confessez ?
Non.
À tout de suite.
Aucun.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est comme moi, un éternel épicurien, Stéphane, très affecté par le contexte actuel. Souvent, on en parle d'ailleurs hors antenne, des conversations de qualité qui, comme vous allez l'entendre, font vraiment avancer le schmilblick.
Ça me manque, moi, les restos, là. J'irais bien faire un resto.
Ah oui.
Putain, vraiment, on est mort de bouffer.
Tu vois, là, tout à l'heure, d'ici une bonne heure, pour aller casser la croûte généreusement, tu vois, à tabler dans une bonne ambiance.
Bah oui, et on peut pas ?
Non.
Et oui, les grands esprits se rencontrent. C'est pas pour rien qu'on bosse ensemble. Olivier Pouls, vous êtes notre expert gastronomique. Vous nous racontez l'origine d'une recette.
Vous l'avez confessé tout à l'heure, vous ne saviez pas, vous ne savez toujours pas d'ailleurs.
Je ne sais toujours pas.
Ce qu'est le tablier de sapeur.
Je pensais que c'était une position très, très, très entre nous pour que
non,
tout soit dit.
On pourrait se renvoyer à la chronique de David tout à l'heure parce que c'est aussi, bon, enfin bref. Non, c'est une spécialité gastronomique lyonnaise qu'on range dans la catégorie des produits tripiers et qui se prépare à base de gras double. Et là, je voudrais tout de suite vous préciser une chose très importante concernant le gras double, c'est que vous avez, je pense, une idée très fausse de ce qu'est le gras double.
Oui, c'est pas doublement gras.
C'est pas doublement gras, voilà.
Et non,
le
gras double, c'est de la panse de vache, et c'est un plat qui, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, est extrêmement maigre. Il y a pratiquement pas de gras dedans.
Il y a le mot gras dedans.
Alors vous allez me dire, pourquoi ça s'appelle du gras double?
Pourquoi ça s'appelle le gras double s'il n'y a pas de gras?
Parce que ça vient du latin crassus, qui veut dire gros ou épais, et double qui signifie la panse. Et c'est la partie la plus épaisse
incroyable
de la panse de la vache.
Oh.
C'est un produit tripier que vous pouvez acheter donc chez le tripier ou chez un certain nombre de bouchers ou de charcutiers qui vont vous le vendre pré-cuit. C'est-à-dire que c'est un morceau qu'on prève qui est assez grand d'ailleurs. Ils le coupent en morceaux. Ensuite, ils vont le pocher dans l'eau pendant 3-4 heures. C'est assez long à faire dans l'eau, dans un bouillon. Vous pouvez le faire chez vous, mais franchement,
ça n'a pas d'intérêt.
Vous pouvez vous procurer directement ce gras double pré-cuit, et c'est ce qui va vous servir à élaborer le tablier de sapeur. Alors, pourquoi le tablier de sapeur? D'abord, parce que on coupe la pièce en triangle, et vous allez voir à la fin que l'aspect ressemble à un tablier en cuir. Et avant de s'appeler le tablier de sapeur, il s'appelait à Lyon le tablier de Gnafron. Vous savez, Gnafron, c'est le copain
de Guignol,
qui était cordonnier, et qui portait un tablier. Et un certain maréchal de Castellane, qui était gouverneur militaire de Lyon sous Napoléon III, était un fin gourmet et surtout un dingue de tablier de Gnafron. Et comme c'était un ancien sapeur du génie, il a décidé de donner le nom du tablier de sapeur, ce fameux tablier en cuir que portent les sapeurs, justement, pour réaliser leurs travaux de force. Et il a donc baptisé ce plat, non plus tablier de Gnafron, mais tablier de sapeur, pour rendre hommage à ces fameux sapeurs.
Vous nous donnez une recette autour de ce tablier de sapeur, ou il n'y a qu'une seule recette figée?
Alors, la recette, elle est très simple. Donc, du bon gras double blanchi que vous achetez chez votre tripier, vous en prenez 600 grammes, vous le taillez en triangle, vous le faites mariner pendant 2-3 heures dans 1 demi-litre de vin blanc, additionné d'un jus de citron, de moutarde et d'un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite, vous allez le paner à l'anglaise, c'est-à-dire le passer successivement dans du jaune d'œuf battu, de la farine et de la chapelure. Et ensuite, on passe tout ça à la poêle dans un peu de matière grasse et on fait croustiller le tout. C'est franchement délicieux et surtout, hormis la petite matière grasse qui a servi à le cuire, c'est un plat qui n'est pas gras du tout. Donc, vous pouvez manger une bonne sauce béarnaise avec.
Génial. Merci Olivier. Et on peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Et je sens que David Castello-Lopez est rassuré, soulagé d'apprendre qu'il y a au moins quelque chose qui reste taillé en triangle en 2020. C'est le tablier de sapeur. Dans un instant, l'origine d'une expression avec vous, mon cher Stéphane. Cette expression aujourd'hui, c'est...
Pourquoi dit-on quand on estime qu'il y a malversation, lorsque par exemple vous m'accusez sans preuve de tricher au quiz, etc.
J'ai des preuves.
Pourquoi dit-on que les dés sont pipés?
C'est vrai, pourquoi dit-on ça? C'est une bonne question, mais j'ai des preuves.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous le savez, sa maîtrise du français est inversement proportionnelle à sa maîtrise de l'anglais. Donc si je vous le fais écouter en anglais...
Wow! Yes! Ah, yes! When the wind gains the win and the no gains the no... C'est Raffarin.
Vous vous dites, waouh, le mec doit être vraiment balèze en français. Stéphane, vous nous livrez sans tarder votre mot de la fin chaque jour, l'explication d'une expression.
Bien sûr. Puis vous me donnez dans chaque émission, eh bien, la confirmation que parfois les dés sont pipés. Alors, quand on joue, quel que soit le jeu d'ailleurs, on déteste que l'adversaire ne respecte pas les règles. Et on n'a qu'une seule crainte, que les dés soient pipés. Donc, d'où vient cette expression? C'est la question que vous vous posez.
Je me la pose effectivement, mais l'univers de la pipe pouvant être propice à un humour qu'on ne peut décemment pas tolérer sur Europe 1, j'espère que vous n'allez pas vous aventurer par là, Stéphane.
Bon, franchement, que vous disiez ça, c'est un peu la cafetière qui dit à la théière qu'elle a les fesses noires. Enfin, voilà.
C'est
une version plus compliquée de l'hôpital et de la charité, en fait.
C'est compliqué que vous venez d'inventer.
Voilà, mais revenons à nos dépipés.
Ah oui.
Au XIIIe siècle, une pipe ou un pipet est un appôt que l'on utilise à la chasse pour attirer les oiseaux, souvent pour les faire venir dans un piège. Ce pipet était l'ancêtre du pipeau. Aujourd'hui encore, pour dire mentir, on dit jouer du pipeau. Au XIVe siècle, piper signifiait imiter le cri d'un oiseau pour l'attirer. La tromperie est évidente. L'oiseau, parfois trop tard, comprend qu'on sait jouer de lui. Ainsi, certains dés sont pipés, à savoir qu'ils ont été conçus pour tromper la personne avec qui on joue. Chez les Québécois, on a gardé l'expression « quand quelqu'un raconte des histoires, on dit « il compte des pipes ». Chez les Anglais, pour dire qu'il y a une fraude, on dit « something is fishy », il y a quelque chose de poissonneux. Quant à nos amis portugais, « ujda dos san chumbadus », à savoir « les dés sont plombés ».
Plombés, chumbadus, oui.
Qu'il soit pipé, plombé, bah nous on reste le dindon de la farce.
Excusez-moi Stéphane, j'ai compris d'un point de vue linguistique. En revanche, je ne comprends toujours pas physiquement comment on pipe des dés. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment
si, par
on
exemple,
peut alourdir le côté du 6, oui, par exemple?
C'est ça, il y avait deux fois où on rajoute, si vous voulez, quand on mettait plusieurs 6 sur
une face. Ça peut se voir, quand même.
Ça peut se voir. Ouais. Non, mais plombé, oui, c'est, d'ailleurs, en portugais, c'est, oui, plombé, donc ça,
oui,
dire, donc ça doit être alourdi.
Je crois que c'est une question de poids. On met du poids, ouais, sur une des faces du dé.
Peut-être pas le 6, d'ailleurs, plutôt celui qui est de l'autre côté, pour que le 6 soit en haut.
Il est malin.
Donc c'est le 1.
L'heure est venue de dire adieu à nos moustachus de l'histoire, les amis. Adieu, Jean Rochefort, Solon, Groucho Marx, hasta la vista, Salvador Dali.
C'est fou ce que vous parlez bien les langues. Hein.
Toutes. Et sinon, Stéphane, quel moustachu vous a le plus tapé dans l'œil, en tout bien tout honneur, cet après-midi?
Bah, c'est Amanda Lear. Non.
C'est Amanda Lear. Merci, mais ce sera le mot de la fin. Ouais. On se retrouve demain avec des gens rasés de près cette fois.
Oui, oh la bonne blague.
C'est pas une blague?
Non, mais c'est le thème de notre émission de demain, Mathieu. On réunit trois auteurs de canulars, trois blagueurs qui ont marqué l'histoire. Orson Welles, qui a fait croire à une invasion extraterrestre, à la radio notamment, et l'humoriste Pierre Dac, qui s'est présenté à l'élection présidentielle de 65.
Et parmi les vivants, je me permettrai de vous parler de François Damiens, dit François Lambrouille. Évidemment, alors à demain, bisous.
Oui, je vous fais des bisous. À demain, comme Mathieu. Ça. Oui. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.